Nous sommes en 2017. Ça, je crois que personne n'est surpris de cette affirmation, enfin je l'espère. Mais on l'a rappelé hier soir, en 1999, Jacques et moi organisions ici même, dans le salon qui nous a été volé par le colloque Pau, nous organisions un colloque qui s'appelait « Géographie à Cerisy, logique de l'espace, esprit des lieux ». Et ce colloque avait pour vocation, de manière très immodeste, non pas simplement de faire rentrer la géographie à Cerisy, mais plutôt de constituer un moment fondateur ou refondateur, comme on disait beaucoup à l'époque, y compris politiquement, un moment fondateur d'une certaine géographie et d'une certaine démarche d'une géographie s'assumant pleinement comme science sociale, c'est-à-dire rompant définitivement avec un certain nombre d'errements qu'un certain nombre d'entre nous avaient dénoncé depuis longtemps, s'affirmant pleinement comme science sociale, et surtout en s'affirmant pleinement comme science sociale, affrontant très sereinement l'échange avec les autres sciences sociales, toutes les autres sciences sociales, de la philosophie au droit, en passant par l'anthropologie, l'économie, bien sûr la sociologie, la linguistique, j'en passe et des meilleurs. Donc affirmant aussi crânement, si je puis dire, que dans l'économie de l'échange avec les sciences sociales, la géographie n'était pas simplement en dette par rapport aux autres sciences sociales, ce qu'on a souvent considéré, mais que la géographie était aussi créditrice, c'est-à-dire qu'elle pouvait apporter aux autres sciences sociales une pensée du social que ces autres sciences ne possédaient pas, parce que justement, elles prenaient le social à partir des questions spatiales. Ça n'a l'air de rien de le dire aujourd'hui, peut-être, mais dans les années 90, c'était quelque chose que de le dire, c'est-à-dire de considérer que la géographie n'était pas simplement la petite dernière des sciences sociales, la plus au bas de l'échelle des sciences sociales, comme l'avait dit Bourdieu, hein, dans sa classification de la hiérarchie des sciences sociales, la philosophie juste après la sociologie bourdieusienne et la géographie tout en bas. Non, la géographie n'était pas simplement cette domestique qui venait frapper à la porte pour demander de manger le reste de confiture, mais était une discipline qui, en tant que telle, et compte tenu à la fois des objets qu'elle voulait saisir et des concepts qu'elle mettait en avant, des théories qu'elle élaborait, des méthodes qu'elle proposait, était une discipline qui pouvait irriguer l'ensemble du champ des sciences sociales. Et c'est dans cet esprit-là que nous avons, à la suite de Cerisy 99, à la fois édité assez rapidement le livre chez Belin. À l'époque, il y avait une collection de géographie chez Belin qui s'appelle « Logique de l'espace, esprit des lieux », que nous avons considéré comme une sorte de livre programmatique. Et c'est à la suite de ça aussi que Jacques et moi sommes allés au terme de cette entreprise qui s'est appelée le dictionnaire de la géographie, de la géographie de l'espace des sociétés, qui, ça ne vous a pas échappé pour ceux qui l'ont ouvert, avait aussi une dimension très programmatique et qui, de manière, là aussi, ça nous a d'ailleurs été reproché assez souvent, assez abrupte, hein, certains ont dit assez arrogante, encore une fois, proposait à l'ensemble des sciences sociales des concepts solides pouvant permettre aux philosophes, aux anthropologues, aux sociologues, aux linguistes de penser leurs objets. Et finalement, ce travail de dictionnaire était la première étape de conclusion d'une démarche que le colloque de Cerisy de 99 avait emblématisée. C'est pour ça que je voulais commencer par là, mais qui, pour Jacques et moi, a commencé après quelques années où on a appris à travailler ensemble, puisque Jacques et moi, on se connaît depuis 1981. 13 janvier 93, qui est en fait une démarche qui a commencé pratiquement il y a 20 ans, en 1997, à l'été 97, à Toulouse, où nous avons décidé de conquérir le monde, lui et moi, et en tout cas le monde de la géographie et des sciences sociales, et que nous nous sommes dit, pour cela, il faut que nous développions un programme de pensée. Et que ce programme de pensée ne peut pas être simplement composé du travail individuel de quelques personnes qui se rencontreraient de temps en temps, mais que ce travail de pensée ne pouvait être conçu que comme un projet collectif. Et le colloque de 99 Nous l'avons préparé à deux, mais il a été conçu comme un projet collectif. Et beaucoup de ceux que nous avons rencontrés en 99 font encore partie, d'une manière ou d'une autre, des personnes avec lesquelles nous discutons. Et c'est un projet collectif qui nous a mobilisés ensuite, bien au-delà de la tenue de ce colloque en septembre 99. Mais ce programme collectif a évidemment été poursuivi par le dictionnaire, puisque plus de 100 personnes ont participé à ce dictionnaire, à la fois pour la première et ensuite pour la deuxième édition en 2013, et qu'on peut dire que dans la décennie qui a suivi 2003, jusque pratiquement 2013-2015, l'effet dictionnaire a été pratiquement constant et permanent. Enfin, Jacques en dira peut-être quelque chose, mais moi je ne pouvais pas aller quelque part sans qu'on me parle du dictionnaire. Ça en devenait même un tout petit peu agaçant, pour tout dire, parce que je pouvais même penser qu'il y avait un effet dictionnaire presque trop important par rapport à ce qui était pour nous un moment du travail. Mais je crois qu'on peut dire que cette démarche engagée donc il y a 20 ans a produit des effets dans le champ de la géographie francophone et a produit des effets sur un certain nombre de sciences sociales, et pas forcément les sciences sociales les plus proches, et pas forcément les sciences sociales que nous étions prêts à mobiliser facilement, c'est-à-dire pas forcément la sociologie, par exemple, qui connaît aujourd'hui mieux la géographie qu'il y a 15 ans, mais pas autant qu'on pourrait le souhaiter, n'est-ce pas, Dominique? Parce que la sociologie reste une discipline, finalement, très, très fière de son entre-soi, et sans doute beaucoup trop fière de son entre-soi. Mais quand je vois que, dans un concours aussi aussi formel que l'agrégation de philosophie, cette année, la grande question d'agrégation de philosophie, ça a été habiter le monde. Et que quand je rencontre les gens du jury de philosophie, ils me disent, bah oui, quand même, regardez tout ce qui s'est fait sur l'habité, vous devez en savoir quelque chose. Regardez ce que les géographes ont fait. Et que dans les copies de l'agrégation de philosophie, je sais que des géographes présents à cette tribune sont cités, on se dit, tiens, il y a quelque chose qui s'est passé, de même lorsque l'on travaille avec les anthropologues, on s'aperçoit à quel point l'anthropologie francophone, en tout cas, s'est saisie de ce travail-là, et je crois qu'on peut le dire sans suffisance, mais avec la satisfaction d'avoir fait ce travail collectif. Donc, pourquoi je fais ce détour? Mais c'est pour vous dire que pour moi, ce colloque-là est important parce que dans une certaine mesure, alors là je ne parle que pour moi, il clôt un cycle de 20 ans, ça n'est pas si négligeable dans une vie académique, hein, il clôt un cycle de 20 ans qui, me semble-t-il, nous a permis collectivement de remettre sur le métier, de remettre au travail la géographie en permanence et d'essayer d'approfondir la réflexion géographique à partir de concepts, donc d'un vocabulaire que nous avons essayé de forger le plus précisément possible, mais de la manière la moins dogmatique qui soit, c'est-à-dire en acceptant que ce concept, que les concepts bougent, et nous les avons fait bouger depuis le dictionnaire, qui a été un tout petit peu le moment où on a essayé de fixer ces concepts. Moi, je ne travaille plus le concept de lieu maintenant, ou d'hyperlieu, comme je le travaillais il y a 15 ans. Jacques ne travaille plus les concepts de la même manière qu'il y a 15 ans, mais nous avons néanmoins été tributaires de cette formalisation initiale. Donc nous avons voulu faire bouger la géographie à partir d'un vocabulaire. Voilà. Comme jadis, il existait des vocabulaires de philosophie. On se demande pourquoi. Ben parce qu'il n'y avait pas de travail de philosophie sans vocabulaire stabilisé et sans concept. Ce point de vue-là, on peut être deleuzien, hein. C'est peut-être le seul domaine où on peut l'être, mais finalement, la philosophie, ça sert à produire du concept stabilisé. Donc, il y a un vocabulaire. Nous avons, à la fois dans le dictionnaire, dans le colloque de 99 et dans tout ce que nous avons écrit ensuite, essayé de définir une syntaxe, c'est-à-dire une grammaire, et des systèmes de liens pouvant exister entre ces concepts, parce que c'est bien joli d'avoir un vocabulaire, mais si chaque mot est une monade, est une cellule autonome et isolée, eh bien finalement, ça ne sert pas à grand-chose. On a des mots alignés dans leur splendide isolement, donc nous avons essayé de créer une syntaxe dans des textes, dans des livres, déjà dans le dictionnaire, dans la deuxième édition du dictionnaire, dans des colloques, dans des conférences que nous avons pu organiser. Et nous avons essayé de faire en sorte que cet ensemble syntaxe plus vocabulaire propose une théorie. Mais attention, non pas seulement une théorie de l'espace, mais aussi très vite, et c'est déjà présent en 99, je le redirai peut-être demain, une théorie de la spatialité, et dans une certaine mesure, ce colloque-ci de 2017 ne se comprend que si l'on comprend qu'en 20 ans, nous sommes passés d'une géographie plutôt centrée sur la compréhension de l'espace à une géographie plutôt centrée sur la compréhension des spatialités, en tout cas très préoccupée par cette question de la compréhension des spatialités, ce qui n'est pas mince comme évolution. Donc, non pas seulement une théorie de l'espace, mais aussi une théorie de la spatialité, mais aussi une théorie de la société. C'est-à-dire, la prétention que nous avons, c'est qu'en fait, la géographie concourt à l'intelligence des sociétés humaines, des sociétés humaines qui sont de moins en moins exclusivement des sociétés pensables uniquement comme société humaine, mais aussi comme société d'interaction entre les humains et les non-humains. Donc, nous avons construit une approche qui nous permet de concourir à la théorie de la société, et de ce point de vue-là, alors ça c'est mon point de vue, la géographie peut assumer le fait d'être une science sociale, puisque je crois qu'il existe quelque chose qui s'appelle la science sociale, qui au-delà des variations et des variétés d'approches liées à des point de vue différent, est en fait une science sociale beaucoup plus intégrée qu'on ne veut le dire, et dont l'objectif ultime est de construire une méta-théorie, ou une méga-théorie plus exactement, des sociétés humaines, quel que soit le temps et quel que soit l'espace où on les considère. Donc, je crois que c'est bien ça qui nous a occupés pendant ces 20 années. Et à titre personnel, et les autres parleront personnellement, puisqu'on a dit qu'on s'exprimait ce matin à titre personnel, les quatre livres que j'ai écrits depuis 2007, et le premier de ces livres, L'homme spatial, a été échafaudé au colloque de 99, mais comme je suis un peu lent, j'ai mis 6 ans à l'écrire. Donc, L'homme spatial en 2007, De la lutte des classes à la lutte des places en 2009, L'avènement du monde en 2013 et Hyperlieu en 2017, sont les quatre livres qui, pour moi, balisent ce parcours et qui sont les quatre livres correspondant à ce cycle. C'est-à-dire, maintenant, avec Hyperlieu, j'ai terminé ce cycle-là, je passe à autre chose. Autre chose, c'est la question de l'Anthropocène. Ça sera un prochain colloque, j'espère. Je passe à autre chose parce que j'estime que, non pas nous avons fait le tour, il y a toujours des choses à rajouter dans la compréhension de la société, mais en ce qui me concerne, je crois avoir fait le tour que je pouvais faire. Et je souhaite passer le relais à d'autres. C'est-à-dire que pour moi, ce colloque-là, c'est aussi un colloque de passage de relais. Parce que je crois que ce qui est très important dans la pensée, et d'ailleurs dans le monde universitaire, sans doute aussi dans le monde politique, mais là je crois qu'il va falloir qu'on ait un peu plus de pédagogie, ce que je crois très important dans la pensée, c'est d'être capable de passer le relais. C'est-à-dire qu'être capable de dire « voilà ce que j'ai fait » et je m'efface de ce champ, et je vous offre les outils, si vous le souhaitez, qui vous permettent de commencer. C'est pour ça que je suis très heureux que, évidemment, Jacques soit là. Il est beaucoup plus jeune que moi, il a encore tout l'avenir devant lui, vous l'avez vu sur la photo, il n'est absolument pas marqué par les ans, alors que moi j'ai pris un sacré coup de vieux. Mais je suis très heureux qu'Olivier nous ait rejoint, et très heureux que Yann soit présent à cette table, parce que pour moi, Yann représente la jeune génération des géographes, c'est-à-dire des géographes qui n'ont pas peur, de façon très aimable mais très irrespectueuse, à la fois de récupérer ce travail, mais de le déplacer sur d'autres terrains. Parce que transmettre, ça n'est pas vouloir créer des élateurs, ça n'est pas vouloir produire des desservants de son propre culte. Transmettre, c'est proposer à des gens de déplacer ces objets et de dire « malmenez-moi ». Donc j'espère bien que vous allez nous malmener pendant ce colloque. C'est-à-dire, dites-nous là où ça pose question, là où vous voulez aller, où nous n'avons pas envie d'aller. Et je suis donc aussi très content que dans ce colloque, finalement, il y ait beaucoup de doctorants, beaucoup de jeunes géographes en devenir, que ces géographes deviennent géographes universitaires ou pas, parce que personnellement, ça fait longtemps que j'ai arrêté de croire que seule l'université avait l'apanage de la pensée. On pense beaucoup en dehors de l'université, et parfois beaucoup plus en dehors de l'université qu'à l'université elle-même, heureusement. Mais je crois vraiment que la présence des jeunes géographes est intéressante, et je ne discrédite pas les vieux schnocks, les vieilles géographes, enfin, mais simplement, je trouve ça très, très stimulant de voir aussi cette dynamique des jeunes doctorants qui est très frappante dans nos universités. C'est-à-dire ces jeunes qui viennent avec une sorte d'appétit de comprendre l'espace des sociétés dans tous leurs états. Donc, pardonnez-moi ce propos un peu long, liminaire, mais en tout cas pour moi, c'était important de le dire. Deux mots ensuite du programme, et je vous laisse la parole. J'avais dit que je serais court, mais ce n'est pas ma spécialité première. Nous avons conçu ce colloque comme en 99, moins comme un colloque où nous allions ex cathedra vous expliquer les choses, mais plutôt comme des séances de remue-ménage collective. Laissons-nous le temps d'écouter, de discuter, de critiquer, de reprendre. Si une séance vous interroge et que vous mettez la nuit pour identifier, grâce au calva que vous irez chipper dans les réserves, vous mettez la nuit pour identifier ce qui vous a dérangé et que vous voulez y revenir le lendemain, allez-y, c'est ouvert. Enfin, personnellement, je pense que Cerisy, c'est le dernier endroit pratiquement en France où l'on peut faire ça, où on peut jouir de ce qui peut apparaître comme une contrainte, c'est-à-dire la nécessité de se mettre hors de la vie connectée qui est la nôtre. Donc, profitons-en. Un certain nombre de communications vous proposeront, ça sera mon cas demain matin, d'interrompre quand vous le voudrez. Alors, il y a un coup d'entrée, évidemment, hein, mais d'interrompre quand vous le voudrez le propos. Oui, parce que je suis susceptible, donc, mais de dire, là, je comprends pas, est-ce qu'on... Et demain, je vous ferai quelque chose sans ça, au tableau, comme dans un labo de maths, quand on sait pas trop et qu'on écrit des équations au tableau pour que vous puissiez voir, parce que moi, j'ai conçu ma séance de demain comme une sorte de moment de réflexion sur qu'est-ce que c'est que la singularité spatiale, et je n'en suis absolument pas sûr. Donc, ça sera de l'échange autour de ça. D'autres communications seront peut-être plus carrées parce que certains d'entre vous voudront avoir un peu d'assurance, mais je crois que le principe, c'est que nous puissions en débattre et que dans les ateliers chorégraphiques et théâtre, nous puissions utiliser ce que nous avons entendu dans ces ateliers. Que les ateliers et les repas, les pauses, les trajets au bord de la mer soient éventuels quand il fera beau. C'est-à-dire 10 minutes nécessairement dans la journée, ces trajets, on puisse dire, tiens, j'ai entendu ça, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que tu pourrais me conseiller comme lecture, vraiment qu'on se serve de ça pour que nous progressions tous les 40 ou 42 que nous sommes. Chacun peut s'exprimer, il n'y a pas de préséance, on se souvient tous du colloque de 99. Enfin, ceux qui y étaient, ou un très jeune géographe, Mathis Stock, très très jeune géographe, qui était tout juste en doctorat à l'époque, où il venait de terminer son... il était en deuxième année de doctorat, a interrompu en pleine séance un géographe chenu, qui n'en revenait pas, pour lui dire mais c'est du pipi de chat, enfin, en termes Mathis Stockiens, hein, ce que vous racontez, ça n'a aucun sens. Il l'avait fait en complète ingénuité. Il avait à moitié raison, à moitié tort, mais ça a suffi à ce que tout le monde remarque Mathis Stock, et finalement, depuis, il s'en est pas si mal sorti. Hein. N'hésitez pas, il n'y a pas de préséance. À partir du moment où vous dites pas de mal de Jacques et moi, il n'y a pas de préséance. Hein, Jacques, c'est ce qu'on devait... Oui. Alors, nous avons un colloque en trois moments, mais ne vous appesantissez pas trop sur cela. Une première partie où Jacques, ce matin, va vous proposer un jeu JE de cartes, c'est-à-dire plutôt sa propre réflexion de 20 ans, hein, j'imagine aussi, en tout cas quelque chose qui renvoie aussi au travail accumulé et au déplacement de son travail. Et ça sera moins une introduction au colloque qu'une première contribution à la réflexion collective. Mais nous sommes dans une première partie ensuite qui est plutôt tournée autour de la singularité et du singulier. Qu'est-ce que c'est qu'un singleton spatial ? Philippe Vassé, écrivain, et je suis très content qu'il ait quand même pu venir. Donc Philippe Vassé n'est pas un géographe, c'est un écrivain de métier. Il sort d'un séjour d'un an à la Villa Médicis. Il a écrit plusieurs textes très étranges, entre romans, non-fiction, documentaires, des textes où toujours la carte, les blancs de la carte et les zones oubliées ont un rôle central. Il viendra nous parler de ça et de son écriture. Ce soir, nous aurions dû avoir un atelier, mais cet atelier finalement est annulé parce que le groupe Trace n'a pas pu nous rejoindre, donc ce soir c'est vacances. Demain matin, je vous parlerai des singularités spatiales autour des questions d'individus, d'hyperlieux et de monde. Et l'après-midi, nous aurons une séance autour des langages du singulier. Et le soir, nous ouvrirons l'exposition de Raïm Serra. Ensuite, nous passerons...
Ce sera à 18h.
Hein. 18h, comme Edith l'a demandé. À juste raison, pour qu'on puisse en faire profiter le plus grand nombre de personnes possible. Ensuite, nous passerons une partie autour des quantités de qualité, avec cette idée un peu folle que la singularité n'épuise pas la possibilité de parler de quantité. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'inconciliable entre la quantité et la qualité, avec une introduction, débat, discussion par Yann Calberac et ensuite Dominique qui viendra nous parler de ces choses-là et donc des fantômes qu'il y a dans les téléphones mobiles et dans l'habitel. Ensuite, des présentations autour de la spatialité des big data avec Boris Baud et Jessica Pidou. Et puis, le soir, un atelier, c'est théâtre ou chorégraphie en premier ? Oui, oui, théâtre, le lundi soir, hein, c'est ça, l'atelier théâtre avec mardi soir, oui, alors j'ai sauté un jour, ah non, c'est ça, mardi soir, excusez-moi, donc un atelier théâtre avec Yann, Laurence qui est là, qui se cache, qui nous aidera, et moi-même. Ensuite, le 26 au matin, c'est Joseph Morcel, ici présent, historien médiéviste, survivant de l'atelier avec le groupe Trace, qui viendra nous parler des traces. Et vous verrez que c'est tout à fait passionnant. L'après-midi est libre, comme de coutume à Cerisy. Vous pourrez donc herboriser, maritimiser, comme vous voudrez. Et le soir... il y a une table ronde autour du tourisme de masse et dans son rapport à l'individualité organisée par Isabelle Saccaro avec Lauriane Le Tocard et Benjamin Tonnet. Le 27 au matin, il y a une séance autour des frontières des flux et des acteurs, en quoi l'irruption de la singularité actorielle peut-elle modifier ou pas la question de la frontière des flux avec Lucas Tiffine et Djemila Zenedi. Tout le monde n'est pas encore tout à fait là, hein. Et puis nous passerons à une troisième partie autour d'un concept que certains proposent, d'habitance, santé, avec un S. Un concept qui renvoie à l'habitation des espaces-temps humains, avec une introduction par Olivier Lazzarotti avec Cécile Grévin, et Olivier Lazzarotti nous demandera à Franz Schubert qui il est. Nous verrons si Franz accepte de répondre, puisque oui, à Cerisy, il y a traditionnellement une séance de table tournante. Hein, nous sommes pas si loin des îles anglo-normandes, donc il faut reprendre les bonnes traditions hugoliennes. Le soir, il y aura un atelier chorégraphie, danser les théories spatiales. Jacques Lévy et Mélanie Perrier l'ont organisé. Le 28 au matin, les espaces-temps au singulier avec un duo infernal avec Sylvain Kahn et Hélène Noiset qui ne nous ont pas encore rejoints, je crois, Sylvain et Hélène, qui nous rejoignent un peu plus tard. Et le 28 après-midi, les petits acteurs et les grands enjeux, Jean-Nicolas, on a déjà dit un mot hier, entre Jean-Nicolas Fauchil et Anna Povas. Le 28 au soir est libre et le 29 au matin, le samedi, si nous sommes encore dotés d'une quelconque force, nous aurons une petite matinée, comme souvent à Cerisy, de conclusion et de perspective. Et en principe, on se quitte ensuite, ou fâchés, ou bons amis, ou un peu des deux, mais on se quitte en se promettant de se revoir, ce qui souvent, hélas, arrive. Hein. Donc, il est assez difficile de quitter les gens qu'on a rencontrés à Cerisy, n'est-ce pas, Jacques ? C'est évidemment le principe de cette semaine. Voilà, pardonnez-moi d'avoir été un peu long, mais je crois que vous avez à peu près tout ce que vous pouvez vouloir savoir. Jacques, non, tu vas parler après toi. Olivier.
Bonjour. Ce que j'ai à dire tient en quelques idées. La première, c'est qu'effectivement, comme toi, Michel, mais de manière différente, j'ai l'impression d'être une sorte de carrefour de, de la carrière et puis plus généralement de ma vie. En 99, j'étais pas ici, j'étais pas là. Mais là où je te rejoins, vous rejoins, et je pense rejoins aussi les gens qui sont ici, c'est sur l'idée d'une ambition intellectuelle. L'idée que la géographie, ce qu'on appelait la géographie, ce qu'on appelle encore la géographie, a été sous-valorisée, peut-être cyniquement du reste, par une partie de ceux qui prétendaient en contrôler la teneur, et que cette ambition intellectuelle qui vous porte et qui me porte est une des raisons pour lesquelles je pense que ça vaut encore la peine de faire quelque chose dans ce champ-là. La deuxième idée, lorsque j'ai soutenu ma thèse en mars 93, 2 mois après votre rencontre, j'avais conscience que j'avais fait un travail pas mauvais, mais que ça pourrait être mieux. Et j'avais aussi conscience que ce mieux ne pourrait venir que dans l'échange avec les autres, que dans un collectif. Et donc, progressivement, cette idée qu'on pensait pas tout seul ou qu'on pensait peu tout seul s'est imposée à moi. Et elle s'est d'autant plus imposée que j'ai fait cette expérience de l'équipe MIT. Une partie des gens qui l'ont faite avec moi sont là. Et que, bien entendu, les choses se sont confirmées dans la difficulté et parfois le bonheur d'être plusieurs à penser. Et donc, je voudrais particulièrement remercier les gens qui sont venus, soit pour intervenir, soit pour écouter, soit pour interpeller, parce que c'est de plus en plus difficile, je trouve, dans l'université telle qu'elle est, de réunir les conditions où l'on peut tout simplement penser ensemble, indépendamment d'enjeux très importants que sont nos carrières respectives. Donc, effectivement, n'hésitez pas à interpeller, à parler, à dire des choses. C'est aussi ce projet associé au lieu qui est Cerisy. La troisième idée, tu l'as dit très simplement, c'est la transmission. Je trouve très rassurant et très sécurisant de voir qu'il n'y a pas que des gens qui s'approchent tranquillement de la quarantaine, mais qu'il y en a d'autres aussi bien plus vieux et bien plus jeunes. Et donc, je pense que chacun, indépendamment de sa carte de visite, a sa place ici. La dernière idée, sur le fond maintenant des choses, je me suis posé la question, donc là c'est quand j'ai fait mon HDR, c'était la troisième idée qui me semblait se dégager de cet HDR, c'était est-ce qu'il est possible et à quelles conditions de légitimité, de pertinence, d'intérêt de faire une géographie de chacun ou chacune d'entre nous, quel que soit son espace-temps, de même que la géographie classiquement est connue pour décrire des territoires, des lieux, des cartes, etc., à un niveau, je dirais, d'opinion publique. Et dans quelle mesure on peut s'intéresser, dans quelle mesure on peut faire une géographie d'un individu ou d'une individu, et quelles sont les méthodes, est-ce que ça vaut la peine. Et d'une certaine manière, c'est aussi pour moi la fin d'un cycle, puisque c'était la troisième idée qui me semblait intéressante dans cet HDR ou que j'ai eu envie de développer. Donc, qui arrive à son terme avec l'exemple que je vais vous présenter, la géographie de Franz Schubert, aussi paradoxal que ça puisse passer. C'est dans l'histoire de la géographie, je crois qu'il y a eu, enfin, la géographie classique, celle dont nous venons, malgré tout, trois grands interdits qui ont sauté les uns après les autres. Le premier, c'est l'interdit vidalien de la science des lieux et pas des hommes. Le deuxième, c'est l'interdit de Le Lannou de 49, c'est celui de « on théorise pas, laissons aux sociologues, aux anthropologues le choix des généralités et réservons-nous la bigarrure des régions ». Je me souviens du mot parce que je ne savais jamais si on mettait 2G ou 2R, mais grâce à Maurice Le Lannou, je sais écrire bigarrure, ce qui est quand même une plus-value. Eh bien, on ira revoir dans le texte. Et donc, Roger Brunet, puis mes camarades et collègues qui sont là ont largement contribué à faire sauter cette idée que la géographie ne devait pas faire de théorie, ou plus exactement devait faire une théorie assumée. Et le troisième interdit date de 42, c'est celui de mon collègue Picard, Albert de Mangeon, qui interdit de penser les individus. Hein, la géographie doit penser les groupes, les collectifs, mais certainement pas les individus. Au Panthéon, donc, des grands classiques, je crois que ce tabou est en train de se rompre et j'espère que nous allons le faire rompre ensemble. Et effectivement, donner à la géographie ou à l'approche par l'espace, selon les termes qu'on emploie, qui dans la forme sont différents, il ne faut pas la négliger, mais qui sur le fond traduisent une démarche très très proche, l'opportunité de s'ouvrir un champ nouveau, voilà, donc c'est un petit peu expérimental. Que dire d'autre qu'effectivement, en ce qui me concerne, je ne sais pas quel est mon avenir dans cette science et si j'aurais pas envie de faire autre chose après, mais ça c'est une autre question. Donc, écoutez, moi je vous remercie tous d'être venus, hein, d'être venus aussi nombreux. La date, on va pas se le cacher, et peut-être la pire qu'on aurait pu imaginer pour les uns et pour les autres, y compris pour moi. Mais au moins, elle a une vertu, c'est qu'elle a fait le tri entre les gens qui avaient envie d'être là et les gens qui n'avaient pas envie d'être là. Et que ce tri, je l'espère, sera au service de notre réflexion et de nos relations à la fois exigeantes et amicales. Yann,
Moi, j'étais pas là en 99. J'étais né, j'étais en prépa, mais en revanche en 2001, c'est quand le livre est paru, l'ouvrage est paru, c'est le moment où j'ai commencé mes études de géographie à Lyon 2. Et donc j'ai lu l'ouvrage au moment où il est sorti, et pour être très très honnête, j'y ai pas compris grand chose, parce que ça a changé de la géographie qu'on avait apprise en prépa où on faisait du commentaire de cartes, et ça a changé de la géographie que j'apprenais en licence. Mais on se préparait à l'agrégation et on nous avait dit Michel Lussault est au jeu de l'agrégation, donc il faut bien sûr connaître ses travaux, parce que si jamais il interroge à l'oral, il faut pouvoir le citer. Et donc l'article acteur a été lu, relu un certain nombre de fois, et pour être honnête, je suis allé à l'oral sans l'avoir compris, mais heureusement, vous n'étiez plus à l'oral à ce moment-là. Voilà, bref. Mais en tout cas, j'ai été en tout cas formé par une des premières lectures. C'est vraiment cet ouvrage, et aussi par le dictionnaire qui est sorti en 2003. Et je me souviens que vous étiez venu en conférence à l'ENS, nous annonçait quelques semaines avant qu'il allait paraître, et que je l'ai acheté dès qu'il est sorti. Donc voilà, c'est vraiment une lecture qui m'a intéressé, parce que c'est dans cet ouvrage-là, dans cet esprit-là que j'ai appris à faire de la géographie. Si bien qu'il a fallu attendre bien du temps, le moment où je commence ma thèse, pour mesurer la rupture qu'a consisté ce moment cerisi et le prolongement par rapport à une histoire de la géographie. Puisqu'à ce moment-là, quand j'ai fait ma thèse, je me suis destiné à être historien de la géographie. Et donc j'ai commencé à suivre les débats, donc effectivement les textes qu'a évoqué Olivier Lazzarotti, hein, sur la géographie, science des lieux et des hommes, même s'il y a une suite, le texte de Le Lannou et le texte de Mangeon, effectivement, me paraissaient complètement démodés, mais parce que j'avais justement profité de la géographie qui avait été rénovée quelques années plus tard, à Cerisy. Mais si je suis particulièrement content d'être ici, c'est parce que ça fait écho à un autre événement dont on n'a pas encore parlé, mais qui s'est passé il y a un an presque, jour pour jour. C'était en juin 2016, c'était le Géopoint qui s'est tenu à Lausanne, donc le 40e Géopoint, qui était aussi un moment de renouvellement du principe du Géopoint et un moment où on a tirer les conclusions du programme initial du Géopoint et qu'on a essayé de le faire évoluer. Et c'était intéressant parce que j'avais à ce moment-là présenté une communication au début sur 40 ans d'espace dans les sciences sociales. Donc ce qui était un peu ambitieux, surtout qu'en plus il n'y avait que 20 minutes pour faire ça. Et j'avais donc pris lâchement le parti pris, comme il y avait quand même beaucoup des acteurs du renouvellement des sciences sociales qui étaient dans la salle, j'avais pris le parti de parler du début de la période, en disant que finalement les gens connaissaient ce qu'il y avait à la fin de la période. Mais l'intérêt de ce Géopoint, ça m'a montré que si on veut parler du passé, et là c'est l'historien de la géographie qui parle, si on veut parler du passé, il est nécessaire de comprendre les débats contemporains. Et l'intérêt du Géopoint, l'intérêt de la richesse des débats, vraiment les avancées les plus récentes et le travail qu'on pouvait faire sur les concepts pour définir à la fois l'espace, les spatialités, a permis d'enrichir rétrospectivement mon travail. D'autant plus que, alors que j'avais fait une thèse en histoire de la géographie, j'essaie de travailler depuis quelques années maintenant en histoire et en épistémologie des sciences sociales, et j'ai bien mesuré l'intérêt du programme donc du Géopoint, et donc plus largement le programme établi à Cerisy en 99, de vouloir décloisonner au maximum la géographie. Alors en fait, moi, ce que m'a apporté à la fois le programme de Cerisy de 99, mais également ce qu'on essaie de faire ici, enfin ce que ça va m'apporter, j'espère, c'est d'essayer de penser la place singulière de la géographie dans le concert des sciences sociales. Si je reprends le titre de ce best-seller de la géographie, c'est comment est-ce qu'on peut faire finalement pour avoir à la fois un pied dedans, un pied dehors. Comment est-ce que l'on peut... C'est la thèse de Chaléard. Voilà, un pied dedans, un pied sur l'agriculture vivrière. Un pied dedans, un pied dehors. Et voilà, comment est-ce que l'on peut finalement penser l'espace, comment est-ce qu'on peut penser les spatialités, à la fois pour les géographes, pour les autres sciences sociales qui ont elles aussi des choses à dire et à nous apprendre sur l'espace, et surtout comment est-ce que l'on peut se positionner dans une évolution temporelle, puisque moi ce qui m'intéresse particulièrement c'est l'histoire, hein. Là vraiment je me revendique vraiment comme un historien de la géographie et des sciences sociales. Et en fait finalement ce que ce dispositif ce en quoi ce dispositif m'intéresse et là où je pense qu'il peut m'apporter des choses, c'est de finalement de pouvoir aborder une position de surplomb. La position de surplomb qui consisterait à ce que nous, géographes, expliquions aux autres disciplines ce qu'est ou ce que doit être l'espace, mais également à pouvoir comprendre que ce que l'on dit, ça s'inscrit dans un temps long, des évolutions qui prennent du temps, des évolutions qui sont construites, aussi en lien avec des évolutions de la société, des sciences et des questionnements qui évoluent. Et donc, c'est la conclusion à laquelle j'étais arrivé après ma participation à l'entretien au Géopoint, c'est que finalement, pour bien comprendre le passé, il fallait être parfaitement au courant, informé de ce qui se passe, et que le meilleur moyen de pouvoir faire de l'histoire, c'est encore de participer à une construction théorique. Donc c'est un peu l'ambition que j'ai ici, c'est vraiment d'apprendre avec vous, parmi vous, des constructions les plus récentes sur l'espace, les spatialités, d'avoir un vrai débat, et de pouvoir ensuite m'en nourrir pour interroger ce qui a été fait avant par nos prédécesseurs, et le cadre de Cerisy s'y prête tout particulièrement, puisqu'il n'y a quand même rien de plus agréable que de voir les murs avec les photos des anciens colloques, les penseurs qui ont marqué l'histoire, et voilà, bien, merci.
Il faut savoir que Yann est un peu perturbé parce qu'il dort dans la chambre de Martin Heidegger. Hein, donc, évidemment, vous comprendrez bien qu'ici, il y a une sorte d'appel. Hein.
Alors, juste...
Oui, il y a eu Toynbee aussi. Essayons simplement d'être des cohabitants ordinaires du monde pendant ces 8 jours et de penser et de vivre ensemble et de retrouver aussi le caractère domestique de la pensée. Hein. Si la société va mal, c'est peut-être parce que la pensée n'est plus assez domestique, n'est plus assez... diffuse dans tous les lieux élémentaires de la vie au quotidien. Et Cerisy nous apprend cela aussi, c'est-à-dire à revenir à cette dimension un peu ordinaire, domestique, au jour le jour de la pensée de son échange. Sur ces paroles de curé, je laisse la place au révérend père Jacques Lévy.
Je fais la transition. Enfin, dans le récit que vous avez fait les uns et les autres de la période précédente, il y a l'idée qui a été lancée par Michel tout à l'heure que la géographie pouvait être pas seulement importatrice, mais aussi exportatrice de concepts. Je pense que cette distinction, elle est devenue obsolète. Et c'est aussi ça, la fin de cycle. C'est-à-dire que on n'est plus dans le programmatique, j'espère, dans ce colloque. Et c'est aussi pour ça que la distinction entre les gens qui sont issus de la géographie et ceux qui n'en sont pas issus n'a réellement aucune importance. Boris Baud, hier, s'est présenté comme professeur de sciences sociales. J'espère que c'était au singulier. Et je l'en félicite. We don't care.
C'est du normand.
Et je pense que c'est important de voir aussi que, alors, disons, l'apport, l'avantage comparatif de la dimension proprement disciplinaire, c'est-à-dire des gens qui ont été baignés dans le bain de la géographie, c'est que il y a ce côté appareil productif plus jeune, et donc le fait qu'il y a un certain nombre d'encombrements, pas beaucoup, mais quelques-uns que nous n'avons pas, que nous avons moins que d'autres disciplines, mais c'est tout. Et donc, par exemple, la possibilité de transversalité avec l'ensemble de la science du social, plus facile peut-être, mais pas forcément, hein. Je veux dire que si les autres, si c'est aussi facile pour les autres, ben, tant mieux, on va pas s'en plaindre, hein. Donc je pense que les gens qui sont d'origine géographique, donc on va dire la fin du droit du sang et le début du droit du sol en matière de sciences sociales, donc les gens qui ont des origines géographiques ne prétendent pas ici à avoir la moindre supériorité dans quelques domaines que ce soit. Donc le droit du sol en matière de sciences, pour moi, c'est le fait de privilégier les problèmes, les cadres communs, les transversalités, les dimensionnalités, et donc on est tous sur le même plan. Et l'idée, c'est d'arriver, par exemple, sur la question de la singularité, à faire mieux, pas seulement à propos d'espace et de spatialité, mais dans tous les domaines, puisque en fait, la question de la singularité, elle n'est absolument pas propre aux questions spatiales. Voilà. Donc ça, c'était le premier point. Et puis le deuxième point, c'est Cerisy. Je trouve que c'est un objet géographique assez intéressant. Il y a une question à l'agrégation de géographie cette année, à partir de l'année prochaine, c'est la notion de marge. C'était déjà cette année. D'accord. Alors il y a eu plein de petits livres qui ont été faits pour des gens qui veulent essayer d'arrondir leur fin de mois en faisant des livres sur des sujets qu'ils ne connaissent pas. Et donc j'ai été invité à écrire un chapitre comme ça dans un de ces livres. J'ai essayé de réfléchir à la notion de marge en me demandant si, parce que généalogiquement, la notion de marge a été aussi utilisée comme un synonyme de hyper-périphérie. Ça me paraissait pas très intéressant. On avait périphérie, la typologie d'Alain Reynaud, périphérie délaissée, abandonnée, etc. Ça me semblait suffisant. Il n'y avait pas besoin de mobiliser le mot marge, qui est un mot assez général. Donc, en fait, je suis arrivé à la conclusion que si on devait garder ce mot, c'était plutôt comme une périphérie qui pouvait devenir un centre ou qui était un centre parce qu'elle était périphérique. Et je trouve que Cerisy est un cas typique d'une périphérie. Hein, donc c'est... bon, Edith est là, mais bon, elle me pardonnera. C'est le trou du cul du monde ici. Et c'est ça sa force. Et donc, Edith a expliqué hier que justement, c'était que l'équipe de Cerisy cultive cela de façon stratégique. Si Cerisy ressemblait au reste du monde en un peu moins bien, ça n'aurait aucun intérêt. Et donc, la force de Cerisy, c'est d'être un endroit, c'est d'être le contraire d'un hyperlieu, en tout cas dans cette définition classique d'un lieu très connecté, très lié au mouvement du monde, que Michel développe dans son dernier livre, mais en même temps peut-être qu'il va être d'accord pour dire que Cerisy est malgré tout un hyperlieu paradoxal, parce que le fait de projeter un hyperlieu qui serait la scène scientifique de sciences sociales francophones dans un endroit qui n'a pas les caractéristiques de connexion avec le reste du monde, crée un avantage comparatif qui fait que il y a une centralité de Cerisy qui ne pourrait pas être produite ailleurs, dans le centre, je dirais, officiel, qui serait, je sais pas moi, la Sorbonne, ou, enfin, bon, je suis gentil avec la Sorbonne, disons la scène intellectuelle parisienne.